Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Qu'est-ce que l'âme? Personne n'est en mesure de répondre à cette question. Ce qu'est l'âme? La Bible emploie parfois ce mot pour désigner l'âme en tant qu'être vivant, comme par exemple en Ézéchiel chapitre 18 ou verset 4, et où Dieu dit « L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Il veut dire l'homme qui pêche, mourra spirituellement, sera séparé de Dieu. Par contre, quand Christ dit en Marc chapitre 8 et verset 36 « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» il parle de cette partie de l'homme qui continue à vivre après sa mort physique et pour l'éternité. La question reste cependant encore posée. Qu'est-ce que l'âme, cette partie immortelle de l'être humain? Personne ne peut répondre à cela. Dieu a sans doute décidé qu'il nous suffisait de savoir que nous sommes dotés d'une âme qui continuera à exister dans le bonheur ou dans la misère après que notre corps aura disparu. Ce bonheur et cette misère dépendent de notre obéissance dans cette vie à la parole de Dieu. En Hébreux chapitre 4 et verset 12, il nous est affirmé que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Il est donc fait ici une distinction entre âme et esprit. Nous ne sommes pas à même de comprendre avec certitude ce qui est entendu ici par le mot âme. On pense en général que dans les passages tels que celui-ci, ce terme désigne le principe de vie animale que l'homme partage avec les autres créatures, tandis que le mot « esprit » décrit la partie de l'homme qui ne meurt pas lors du décès du corps. Ceci est la meilleure explication que je connaisse de ce sujet. Mais de toute façon, le fait qu'on accepte cela ou non n'influence en rien notre salut. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour séparer âme et esprit. C'est tout ce à quoi nous sommes appelés à croire, et nous n'avons aucune raison de nous sentir mal à l'aise à propos de cette distinction. Dieu nous bénit en nous révélant avec clarté tout ce que nous avons besoin de savoir, et en ne nous dévoilant pas les choses qui nous feraient probablement du tort. Nous avons pourtant besoin de définir, avant d'aller plus avant, ce que représente la mort physique. En Jacques, chapitre 2 et verset 26, il nous est dit que le corps sans âme est mort. Cette mort est donc le départ de l'âme. Il nous est également enseigné par la propre mort de Jésus qu'il s'agit également de la séparation du corps et de l'esprit quand il s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. La mort physique est aussi, selon le livre de la Genèse, le retour à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La plupart des difficultés existant entre les différents courants d'opinion en ce qui concerne la Bible proviennent du fait que les hommes émettent des suppositions et expriment ces suppositions dans un langage non biblique. Cela finit par entrer en conflit direct avec certaines affirmations très claires de la parole de Dieu. La Bible ne dit nulle part que l'âme est immortelle. Peu devrait nous importer les idées que nous pouvons concevoir en ce qui concerne l'âme et son existence après la mort, car nous devrions faire fort attention de ne formuler que des expressions employées dans la parole de Dieu. Nombreux sont les versets qui montrent sans ambiguïté que le bonheur futur dépend de la résurrection des morts, c'est-à-dire l'instant où ce qui est mortel revêt l'immortalité. Aucune expression ou idée ne contredit cela dans la Bible. Pour cela, il faut que notre vil corps soit changé et rendu semblable au corps de sa gloire. Cela nous est clairement révélé et devrait nous suffire. L'opinion des hommes varie très peu sur ce que la Bible dit vraiment. Elle diffère pourtant largement quand les êtres humains se mettent à essayer d'exprimer ce que la Bible dit à l'aide de leurs propres mots, idées ou théories. C'est en quelque sorte ce qui différencie les écrivains inspirés de Dieu de ceux qui ne le sont pas. On est d'accord sur ce que la volonté dit de la foi et de la justification. Mais quand on se met à proclamer que l'homme est justifié uniquement par la foi, alors les opinions se diversifient, car les différences sont basées sur la phraséologie des hommes et non sur celle de Dieu. Il ordonne aux hommes d'être baptisés. Tout le monde est d'accord là-dessus, et pourtant, nombreux sont ceux qui prétendent que le baptême n'est pas essentiel. Et les divergences d'idées surgissent à nouveau. Non à propos de ce que Dieu dit, mais sur ce que les hommes disent. Pour l'âme, il en est exactement de même. Les uns disent l'âme est mortelle et les autres qu'elle est immortelle. Il y a donc une différence d'opinion, mais encore une fois, elle repose non sur ce que Dieu affirme, mais bien sur les dires des hommes. Or, l'Éternel, je le répète, ne dit pas que l'âme est mortelle et ne dit pas qu'elle est immortelle. Alors, supposons que nous laissions tomber ces deux expressions ou ces deux mots. Toute controverse cesse automatiquement. Voyons maintenant ensemble ce que le Nouveau Testament dit en ce qui concerne l'âme. Jésus demande à un moment donné à ses disciples, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Il est donc clair que l'homme est doué d'une âme, et que de plus, il peut la perdre. Mais que veut dire perdre son âme ? Écoutons Jésus dire encore, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ceci nous montre que les âmes perdues iront en enfer. Dans un autre passage, il s'exprime encore en ces termes. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Nous savons maintenant ce qu'est l'enfer. Et ce que veut dire perdre son âme. Quelle terrible perte. Tous ceux qui croient à la véracité de la Bible admettent la vérité contenue dans ces passages. Les Écritures nous révèlent qu'il existe deux séjours destinés à l'homme après sa mort. L'un est appelé les cieux, c'est-à-dire c'est là qu'ils vont les sauver, et l'autre est la géhenne destinée aux perdus. Ces deux endroits sont représentés comme étant éternels ou sans fin. Les mauvais, nous dit la Bible, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et au sujet des justes, le Fils de Dieu dit encore, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous devons également croire ce que ces passages disent, bien sûr si nous considérons la Bible comme inspirée de Dieu et infaillible. L'homme a donc une âme qui sera soit sauvée éternellement, soit perdu éternellement. Les perdus seront jetés dans la géhenne ou dans l'enfer, les justes, quant à eux, seront reçus aux cieux. Ces choses ne prêtent pas du tout à confusion et ne permettent aucune controverse, tout au moins pour ceux qui acceptent ce que Dieu dit comme étant la vérité. Par contre, dès que certains disent que l'âme est mortelle et d'autres qu'elle ne l'est pas, là, la dispute s'installe. Exprimons par conséquent maintenant nos conceptions de ce qu'est l'homme et de ce qu'il deviendra plus tard. Mais employons pour ce faire le langage qu'utilise la Bible. Nous évitons ainsi les discussions et les vaines paroles. Disons donc que celui qui obéit à Dieu dans cette vie vivra éternellement là où se trouve Christ, c'est-à-dire dans les cieux. Tandis que celui qui lui désobéit se retrouvera dans la géhenne, c'est-à-dire dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On peut donc affirmer que si nous voulons vivre éternellement heureux, nous devons chercher à sauver nos âmes. Il n'existe pas d'autres alternatives. Très souvent, on se demande où va l'âme après la mort. Il existe en fait très peu de passages bibliques traitant ce sujet. Christ dit que Lazare, à sa mort, fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.
Cela indique l'existence d'un endroit de repos et de bonheur. Paul dit lui aussi, à une certaine occasion, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Il donne ainsi l'impression qu'il serait en présence du Seigneur dès que son esprit quitterait son corps. Mais qui peut affirmer qu'il s'agit ou non du ciel? Personne. Car ce serait encore une fois aller au-delà de ce que dit la Bible. Et cela, nous n'en avons pas le droit selon l'Écriture. Nous pouvons par contre, en lisant la parole de Dieu, procéder par déduction et constater qu'après la mort, on n'est certainement pas inconscient. Pourquoi? Parce que par l'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche, nous apprenons que les morts sont capables de certaines réactions. En suivant le même processus, nous voyons également qu'on ne va pas directement dans notre demeure éternelle, puisque Jésus dit qu'il va nous préparer une place et que ce n'est que lorsqu'il reviendra qu'il nous y mènera. D'ailleurs, ne devons-nous pas tout d'abord ressusciter, puis être jugés, à commencer par ceux qui sont dans le séjour des morts? Mais qu'est donc que ce séjour des morts, cet état intermédiaire où l'âme va en attendant la résurrection et le jugement? Encore une fois, nul ne peut répondre à cela. Il y a des cas où on doit tout simplement avoir l'humilité suffisante pour pouvoir dire « nous ne savons pas » et c'est certainement parce que Dieu a jugé bon de ne pas nous en dire plus à ce sujet. À quoi c'est tout. J'espère avoir jeté une certaine lumière sur le sujet et vous avoir aidé à peut-être comprendre un peu mieux tout cela. Disons-nous bien cependant qu'il importe avant tout d'obéir à la volonté de Dieu afin d'être sauvé. L'endroit où nous irons a en réalité peu d'importance. C'est la réalité de la vie éternelle qui compte. C'est cela l'important.
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement s'entend car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir. Que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur même, on a souffert, le Seigneur même, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur même, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, Agneau de Dieu. Je le dirai toujours, le Seigneur même, le Seigneur même.